Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, octobre 1934, il y a 70 ans, un procès qui a défrayé la chronique entre les deux guerres, l'affaire Violette Nozière. Violette a rêvé de défaire l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Paul Éluard. D'histoire. Rarement en France, un crime n'aura autant mobilisé l'opinion publique que celui de Violette Nozière. Le 23 août 1933, les pompiers découvraient le cadavre d'un employé modèle de la SNCF, empoisonné par sa fille, rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris. Malgré sa gravité, ce crime serait peut-être resté une affaire banale si Violette Nozière n'avait pas expliqué son geste en affirmant qu'elle avait voulu se venger de son père parce qu'il abusait d'elle depuis longtemps. L'affaire devenait alors une affaire d'État. Montée en épingle par la presse, le crime de la rue de Madagascar divisa la France en deux camps. Celui des partisans de l'ordre qui ne voyaient en Violette Nozière qu'une parricide, affabulatrice et débauchée, et ceux qui, comme Paul Éluard et les surréalistes, se sont emparés de son procès pour en faire celui de la famille, de la société et de la justice, qui le 12 octobre 1934 condamnait cette jeune fille de 19 ans à la peine capitale.
Le verdict ! La cour, après en avoir délibéré, ordonne qu'elle soit conduite pieds nus, revêtue d'un voile noir, sur une place publique de Paris, pour y avoir la tête tranchée. Garde, emmenez la condamnée. N'en touchez pas.
La méchante Violette Nozière, sans pitié pour leur misère, elle commit ce crime effrayant.
Véronique Chalmet, bonjour.
Bonjour.
Alors ce crime effrayant, comme le chantait cette complainte, vous lui avez consacré un livre dans lequel on redécouvre cette affaire qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais qui à l'époque, dans les années 30, 1930, avait déchaîné les passions. Pourquoi ? Après tout, c'était qu'un crime parmi d'autres, il y en a même eu de pire.
Oui, mais c'était une jeune fille de 18 ans qui avait tenté d'assassiner ses deux parents et qui était parvenue à tuer son père de manière assez froide et assez calculée, puisque c'était pas la première fois qu'elle tentait de les assassiner. Et elle était parvenue, et loin de vouloir se disculper, elle avait accusé son père d'inceste. Mmh. Donc c'était vraiment sans précédent.
Alors il y a aussi, on le voit bien dans votre livre, vous insistez beaucoup dessus, le cadre familial. Hein, c'est une famille en apparence exemplaire, un père employé modèle de la SNCF. Mmh. Il avait même, je crois, conduit le président de la République, Albert Lebrun, à plusieurs reprises.
Il allait le faire au moins une fois. Ouais, oui. Oui, donc ce père, en fait, était bien sous tout rapport. Il était très travailleur, très honnête. Ses collègues disaient de lui qu'il ne courait jamais la gueuse, qu'il ne buvait pas. Donc il était l'objet de l'admiration de tout son entourage professionnel.
Il avait la médaille des chemins de fer, hein, c'était important. Il en était très fier, à juste titre d'ailleurs. Alors une mère affectueuse, mais alors qui, selon Violette Nozière, aurait fermé les yeux sur un acte d'inceste qui n'a jamais été d'ailleurs prouvé. Mais enfin, qui était quand on voit les antécédents familiaux, qui est plausible. Vous y croyez en tout cas.
Oui, j'y crois totalement.
Véronique Chalmet.
Bah, le grand-père paternel de Violette Nozière avait des gestes plus que déplacés par rapport à ses belles-filles ou aux jeunes filles qui côtoyaient ses fils. On dit qu'il avait abusé justement la femme de son fils, donc sa belle-fille. Et donc voilà, c'était un tyran domestique. Et je pense que d'une autre manière, le père de Violette Nozière a continué à perpétuer cette...
Alors il y a aussi, très important, la personnalité même de Violette Nozière qui étouffe dans un cadre familial qu'elle juge un peu trop étriqué, qui rêve de grandeur, d'argent qu'elle n'a pas.
C'est vrai qu'elle a un petit côté midinette, elle a envie de vivre la vie des jeunes bourgeois de l'époque, même si elle n'en a pas tout à fait les moyens, ce qui la conduit à des extrémités telles que la prostitution ou ce genre de choses.
Oui, parce qu'elle est attirée par les hommes, qu'elle aime bien séduire, moins peut-être pour le plaisir qu'elle n'éprouve pas, apparemment, si on vous lit bien, que pour mesurer d'abord sa séduction, et même pour l'argent, parce que vous le disiez, Véronique Chalmet, elle se prostitue.
Oui, elle se prostitue occasionnellement. Elle a besoin d'argent en fait pour séduire, parce qu'elle a envie d'être entourée, d'avoir des amis. Elle a envie d'obtenir cette espèce de vernis social auquel ses parents aspirent d'ailleurs, et qu'elle n'arrive pas à avoir autrement. Et puis effectivement, bon, au niveau de sa sexualité, elle se dit frigide. Et justement, en fait, cette course éperdue du sexe, de l'argent, des plaisirs faciles, peut être aussi mise en relation avec le traumatisme qu'elle a subi. Enfin, c'est ce que je crois.
Et aussi, elle va en tirer la syphilis, hein, ce qui va aussi, là, je suppose, évidemment, la traumatiser. Elle est très mythomane aussi. Elle s'invente, avec ses amants, elle s'invente des origines bourgeoises, parfois même, de temps en temps, une particule. Elle se donne des faux noms. Elle raconte des salades à tout le monde, y compris à ses parents, évidemment, qui ne savent rien de sa vie.
Oui, elle s'invente une vie. Elle a une double vie de toute façon assez tôt, puisque vers l'âge de 13-14 ans, elle a déjà une double vie. Elle cache à ses parents, donc les hommes, les relations qu'elle entretient. À ses amis, effectivement, elle se dit aristocrate. Enfin, et c'est ce qui la pousse d'ailleurs à essayer d'obtenir de l'argent par tous les moyens. Et, enfin oui, c'est véritablement une mythomane, mais je crois qu'elle essaie de rêver sa vie pour oublier le quotidien.
Et en même temps, très fleur bleue, justement, avec un de ses amants, Jean Dabin, un apprenti macro pour une prostituée occasionnelle, jouée par Isabelle Huppert dans le film de Claude Chabrol, Violette Nozière.
Moi j'aime la grandeur. L'amour sans la grandeur, c'est rien. Moi j'éprouve de l'amour. Ah, oh, je sais ce qu'il te faut, il te faut de l'argent. Bah, t'en auras tant que tu veux.
Oui, combien? 200, 300, 500 francs?
Non, beaucoup plus. Puis après on partira ensemble.
Oui, au Sable d'Olonne en Ducati.
Oui, parfaitement.
Des clous.
Tu crois pas que je suis capable de trouver 10 000 francs en 3 jours, hein? C'est ça?
10 000 francs?
Tu me crois pas?
Si, je te crois capable de tout. Mais comment tu feras pour avoir ces 10 000 francs?
Eh ben, mon père me les avancera.
Hein? Tu m'as jamais dit qu'il était millionnaire? T'as pensé à l'héritage?
Non. Je suis bien avec toi.
Connaître un jour l'étreinte qui ruise éternellement, j'ai tout quitté, tout sans crainte, et suis parti follement. Mais j'ai cherché le visage de l'amour que j'ai rêvé sur chaque être de passage. Et je ne l'ai pas trouvé. Et traînant, apprenant l'épouvante d'être seul dans la foule qui me roule, seul comme un linceul, poursuivant le néant d'amour sans lendemain, sans caresse, sans tendresse, j'ai vécu mon destin. Et la nuit m'envahit, tout est brûlé.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Violette Nozière et cette chanson Complainte de Damien, une chanson très célèbre dans la France de 1933, quand Violette Nozière rêvait d'amour et de Bugatti dans les bras de son amant, Jean Dabin, qui est peut-être le personnage le plus méprisable, en fait, de cette affaire, Véronique Chenemay.
Oui,
d'après ce que vous en écrivez.
Oui, mais je pense que tout le monde a pensé la même chose, y compris au cours du procès. C'était un personnage assez veule, assez hypocrite, qui persistait à vouloir croire que Violette faisait partie d'une famille bourgeoise et fortunée, alors qu'il savait très bien qu'elle habitait 9 rues de Madagascar et que c'était plutôt un quartier, une rue où n'habitaient pas les gens très fortunés.
Et surtout qu'il lui soutirait de l'argent,
qu'il
la prostituait. Enfin, tout ça, c'est pas officiel, c'est pas...
C'est
un étudiant, mais qui est macro, qui vit en fait des charmes, et ça c'est pas à son insu, des charmes de sa petite amie, qui est amoureuse de lui,
qui veut
l'épouser.
Mais c'était un jeu de dupe. Je pense qu'il fermait les yeux sur le fait qu'elle se prostituait pour trouver de l'argent pour lui aussi, d'ailleurs pour lui acheter des vêtements, pour lui offrir des restaurants, etc. Il fermait les yeux au cours du procès, il a dit qu'il n'était pas au courant de ses activités, mais bon... Il est évident qu'il la suivait, il l'attendait même en bas des hôtels de passe parfois. Mmh.
Alors, déjà, à ce moment-là, nous, on est en 33, elle a déjà décidé d'assassiner ses parents. Elle a même tenté, avant de réussir, elle a même tenté à plusieurs reprises de le faire, Véronique Chenemay.
Disons qu'elle s'est entraînée, elle a fait des essais, elle a tenté des dosages différents, des formules différentes de somnifères, oui. Et puis, elle a essayé de concocter un scénario où ses parents se seraient suicidés. Alors, elle a eu du mal à le faire.
Quel est le mobile, avant même qu'on parle de ce crime d'août 1933, est-ce que c'est pour hériter de ses parents? Est-ce que c'est parce qu'elle les déteste, ou en tout cas qu'elle déteste son père?
Alors, la thèse qui était celle du procès, c'est qu'effectivement elle voulait hériter de l'argent qu'ils avaient touché, en fait, d'un petit héritage, et dont elle avait été avertie de manière subreptice. Mais moi, je pense que ça relève surtout d'une haine envers son père qui a grandi. Elle a raconté qu'il l'abusait depuis l'âge de 12 ans, et je pense que cette haine a grossi contre lui jusqu'à ne plus pouvoir être contenue.
Alors la scène de l'assassinat, telle que vous la décrivez, c'est assez effrayant. Hein. Elle va acheter chez le pharmacien trois tubes de somnifères. Elle les pulvérise dans un café où elle se cache pour les pulvériser. Elle les donne à ses parents en leur faisant croire que c'est son médecin qui recommande cette poudre à ses parents, c'est ça?
Bah parce qu'en fait, ses parents étaient déjà très hypochondriaques. Il y a un contexte quand même familial où elle est habituée à voir des fioles, des poudres de toutes sortes, parce que sa mère en achetait dans les magazines, dans les journaux, on en vendait par correspondance. Donc elle leur donne cette poudre, effectivement, en leur disant que ça soulagera leurs maux, que le médecin qui soigne sa syphilis va aussi les soulager.
Et alors là, elle assiste à l'agonie de ses parents. Oui. Alors sa mère, il faut le dire tout de suite, sa mère va s'en sentir, mais son père meurt. C'est vraiment affreux, ça dure des heures. Elle est présente, elle ne bouge pas. Elle quitte son appartement, on est le 21 août, dans la nuit du 21 au 22, elle va coucher à l'hôtel, et elle revient. Quand est-ce qu'elle revient pour voir où en sont ses parents?
Le lendemain soir. Mais son père, en fait, ne serait pas mort, probablement pas, s'il n'avait pas déjà été malade. C'est-à-dire que son agonie était particulièrement affreuse, parce que certains de ses organes étaient déjà lésés. Donc il a fait une hémorragie interne, enfin il s'est vidé littéralement, c'était absolument abominable. Et je crois qu'elle a tenu à assister à cette agonie. Et le fait qu'elle ait voulu assister à cette agonie, pour moi, c'est une preuve supplémentaire de cette vengeance qu'elle a accomplie envers son père qui l'abusait.
Mais pourquoi sa mère? Parce que sa mère aussi, elle lui a fait absorber du poids, enfin des somnifères.
Alors elle s'est contredite là-dessus. Elle a d'abord dit qu'elle ne voulait pas tuer sa mère, qu'elle voulait simplement l'endormir. Ensuite, elle a dit qu'elle ne voulait pas que sa mère survive pour ne pas apprendre que son père lui avait fait subir ce genre de choses. Et puis, en dernier terme, elle a dit qu'effectivement, elle n'avait jamais voulu la tuer. C'est vrai que la dose qu'elle avait donnée à sa mère était moindre que celle de son père.
En tout cas, elle revient donc chez elle, elle voit son père mort, elle voit que sa mère est dans le coma, elle ouvre le gaz, elle appelle les voisins, puis les pompiers, affirmant qu'il s'agit d'un suicide, et puis, justement, très vite, la police se rend compte que c'est un meurtre. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui a survécu, tout simplement.
Oui, la mère a survécu, et puis elle a raconté sa version des faits. Au départ, les inspecteurs qui sont arrivés sur les lieux du crime ont vraiment cru un suicide de la part du père, notamment parce qu'évidemment il y avait du sang partout. C'était terrible. Mais très vite, bon, ça ne collait pas. Son scénario était complètement fantaisiste. Elle avait vraiment mal bâti son histoire. Et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure elle n'avait pas envie d'être prise par la police.
En tout cas, elle s'enfuit. Elle traîne dans Paris pendant 4 jours. Continue d'ailleurs de se prostituer avant d'être arrêtée. Puis interrogée au Quai des Orfèvres par le commissaire Guillot.
Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?
Coupable, je reconnais.
Je cherche à comprendre, mademoiselle.
J'ai rien à comprendre.
Tout de même, vous avez agi avec préméditation.
J'ai rien prémédité contre ma mère.
Mais votre père ?
Mon père, oui. C'était comme une idée fixe. Depuis 2 ans.
Votre père avait trop d'autorité ? C'est cela ?
Il était jaloux. Il voulait pas que je me marie. Mais il n'y a pas que ça.
Dites tout, mon petit. Dites tout.
Entre lui et moi, ça a commencé quand j'avais 13 ans. Vous êtes le premier à qui je le dis. Même mort, je sais qu'il me reluque.
La jeune empoisonneuse est passée aux aveux. Accusée par sa mère, Violette Nozière a reconnu sans difficulté avoir donné du poison à ses parents. Elle a été arrêtée et incarcérée à la prison de la Roquette à Paris.
Et effectivement, le 29 août 33, Violette Nozière donc est incarcérée à la prison de la Roquette après cet interrogatoire par un commissaire qui n'est pas n'importe qui, c'est un grand commissaire de police d'ailleurs qui prendra la défense de Violette Nozière, le commissaire Guillaume.
Oui, tout à fait. Lui, il est complètement convaincu par son histoire d'inceste parce que il a interrogé déjà des malfaiteurs, des gangsters en tout genre avant elle. Il est très réputé. Il sera le modèle d'ailleurs de Simenon.
Oui, c'est un ami de Simenon.
Voilà. Et donc c'est vraiment quelqu'un.
Et c'est lui Maigret alors.
Oui, c'est lui tout à fait.
C'est d'après Guillaume que Maigret a été fabriqué par Simenon.
Oui, c'est tellement son histoire que même sa hiérarchie grincera des dents en lisant certaines des histoires de Simenon. Mmh.
Alors l'instruction est assez terrible. Hein, elle est marquée par quelques moments forts. Vous le rappelez notamment, bien sûr, la confrontation avec sa mère qui est à l'hôpital.
Oui, la mère qui d'abord dit à Violette, pourquoi n'es-tu pas morte ? Tue-toi, qui l'invite au suicide. Et d'ailleurs, toute la presse de l'époque l'invite également au suicide. L'incite au suicide, quoi, à l'époque. On attend qu'elle se donne la mort. Mais elle ne se donne pas la mort, elle est calme, elle est peut-être plus calme que jamais, d'ailleurs. Et puis, au cours du procès, il y aura un revirement où sa mère lui accordera son pardon.
Et puis, alors, il y a aussi le personnage de Jean Dabin, évidemment, qu'on fait venir. Il était en vacances, je crois, dans le Morbihan, on le fait venir. Et là, qui se montre vraiment... Il est accablé. D'ailleurs, les anciens amants de Violette Nozière... Sont les témoins à charge, c'est terrible. Il la traite vraiment comme si rien ne s'était passé entre eux, quoi.
Bah, il n'avait pas beaucoup de considération pour elle. Elle avait la réputation d'une fille facile. Dabin profitait d'elle. Alors lui, c'est vraiment le prototype du type complètement lâche, qui se déballonne complètement. Et d'ailleurs, qui s'engagera, qui partira dans les colonies juste après le procès et qui en reviendra avec une maladie mortelle. Enfin, bon, il a un destin tout à fait terrible, mais à son image de pauvre type, finalement.
Et puis alors, il y a une opinion publique, tout de suite les journaux s'emparent évidemment de cette affaire, elle passionne les gens, mais alors au début, il y a peu de gens pour défendre Violette Nozière. Évidemment, c'est une affreuse criminelle. Les accusations d'inceste qu'elle porte contre son père sont des affabulations, disent ces journaux. Elle a toute l'opinion contre elle.
Bah, elle remet complètement en cause en fait l'assise d'une société dirigée par des hommes et dont les lois sont faites pour les hommes. Les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Elles sont complètement sous la tutelle de leur mari. Donc il est absolument hors de question qu'on prenne pour argent comptant ce qu'elle peut raconter sur son père.
Il y a sur la couverture de votre livre, justement, et ça prouve bien ce que vous dites, Véronique Chalmet, une photo à laquelle vous tenez beaucoup. On voit Violette Nozière. Hein, la photo est assez connue, mais vous, ce qui compte tellement, c'est moins le personnage de Violette Nozière qui est au centre que les deux hommes qui sont autour.
Oui.
Pourquoi ?
Bah parce que ce sont les deux inspecteurs qui l'ont arrêtée quand elle a été dénoncée par le vicomte de Pinguet, qui flirtait avec elle et qui avait découvert de qui il s'agissait en réalité. Et en fait, elle se débat. On a l'impression qu'à la fois, elle veut s'en aller ou bien qu'elle a un mouvement à la fois qui est de recul et un élan, et elle est encadrée par ces deux hommes, et en fait c'est toute son histoire, c'est tout son symbole. Elle est jugée par des hommes pour un crime qu'elle a commis contre son père, et les jurés ne seront que des hommes qui la condamneront à mort.
Et dans un procès qui s'ouvre le 10 octobre 1934 à la cour d'assises de Paris, dans une atmosphère d'émeute, un autre extrait du film de Claude Chabrol.
Elle a été violée par son père à l'âge de 12 ans, il y a de quoi la désaxer.
On n'était pas trop à terre pour voir, hein.
Et puis, elle peut dire ce qu'elle veut. Hein?
Mais ouais. Et leur a fait le coup de l'âme, maintenant, deux fois. Et le deux fois, ils ont marché.
C'est un peu
d'une certaine manière, ils voulaient mourir, quoi.
C'est vous qui le dites.
C'est le procès de la famille. Elle a défait l'affreux de serpent des liens du sang.
Collez-le à. Collez pas.
La méchante violette de nos terres s'habituait pour leur misère. Elle commit ce crime effrayant.
Et c'était donc l'atmosphère du procès de Louis Etnosier, une chanson, une complainte qui a été chantée à cette époque-là. C'est étonnant, je dis pas que c'est l'affaire Dreyfus, bien sûr, mais c'est vraiment les passions. La France était coupée en deux à ce moment-là.
Oui, c'était effectivement le procès d'une passion, de la passion. Et d'ailleurs, la complainte qui a été écrite à l'époque sera la dernière y entrer à un grand procès.
Puis alors des scènes dramatiques, notamment sa mère qui, après l'avoir accablée, parce que sa mère a joué un rôle ambigu pendant ce procès. D'abord, elle accable sa fille, elle lui demande, vous le disiez tout à l'heure, de se suicider. Et puis alors, en plein procès, elle lui dit qu'elle lui pardonne, elle demande au jury également d'en faire autant.
Et puis avant, elle s'est portée partie civile pour ne pas avoir à témoigner, en fait. Donc, ce qui peut ajouter une preuve supplémentaire, si on veut en trouver, à la thèse donc de l'inceste, puisqu'elle n'aurait pas voulu témoigner contre son mari, je pense.
Alors, l'opinion publique est dans l'ensemble plutôt hostile à Violette Nozière. En revanche, alors, il y a les surréalistes qui interviennent, qui publient une plaquette avec des poèmes, des écrits signés par André Breton, René Char, Paul Éluard, Benjamin Perret, Salvador Dali, Yves Tanguy, Max Ernst, René Magritte, Ansarp, Giacometti, Man Ray. C'est extraordinaire, cette publication des surréalistes, qui avait d'ailleurs fait la même chose, il faut le rappeler, un an plus tôt, au procès des Sœurs Papin.
Oui, tout à fait, pour les Sœurs Papin, et puis pour Germaine Berton aussi, qui avait tué un des secrétaires de l'Action française. Et en fait, les surréalistes publient cette plaquette en décembre 33, donc avant un an quasiment avant le procès, et tout de suite, ils prennent fait et cause pour cette femme qui a effectivement brisé l'affreux nœud de serpent des liens du sang, c'est-à-dire qui a voulu échapper à sa famille, qui a voulu échapper aux diktats d'une société, qui a voulu briser tous les liens tels qu'il pouvait l'imaginer.
On peut se demander d'ailleurs s'ils ont servi des intérêts de Violette Nozière, qu'ils devaient totalement ignorer. Par exemple, quelle était, disait André Breton, métaphysique jusqu'au bout des ongles. Hein. Bon, ça, je sais pas si ça a beaucoup servi Violette Nozière. Il y a pas que, hein. Il y a Drieu La Rochelle, vous le rappelez, qui n'était pas surréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Marcel Aimé, il y a une très très jolie texte, un très joli texte de Marcel Aimé au lendemain du procès, le 17 octobre 34. Marcel Aimé qui écrit en condamnant Violette Nozière sans vouloir entendre parler d'inceste, le tribunal s'est montré fidèle à l'une de ses plus chères traditions. Il a voulu affirmer le droit du père à disposer absolument de ses enfants, tout compris droit de vie et de mort, et droit de cuissage aussi.
Oui, absolument.
C'est beau ce texte de Marcel Aimé. Alors, elle est condamnée à mort malgré cette mobilisation, mais elle a été graciée, hein, tout de suite, il faut le rappeler, par le président de la République, Albert Lebrun.
Parce qu'à l'époque, on coupait plus la tête des femmes, ça ne se faisait plus. Donc, elle la suit immédiatement, mais elle pensait être emprisonnée à vie. Ensuite, sa peine sera atténuée par Pétain.
Et puis
elle sera libérée.
Mais en prison, il y a une véritable rédemption qui se produit. Elle envisage même de se faire bonne sœur, si je vous dis.
Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs autres affaires de femmes criminelles comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on essayait toujours quand même de rattraper leur âme quelque part. Les sœurs de Béthany étaient très spécialisées dans la chose. Il y avait un père dominicain aussi qui s'est beaucoup occupé de Violette Nozière. Donc ils ont essayé de la ramener dans le droit chemin, mais pour eux ça signifiait que éventuellement, si on la faisait sortir de prison, elle devait prendre le voile et les rejoindre, parce qu'on n'imaginait pas qu'elle puisse retourner à une vie normale. Mais elle ne voulait pas prendre le voile. En revanche, elle s'est découverte une véritable foi qu'elle a pratiquée. Apparemment, c'était quelque chose qu'elle voulait faire depuis longtemps, mais que son père lui avait interdit parce que lui avait peur, apparemment, de la confession et de ce qu'elle aurait pu dire à son directeur de conscience.
Elle déclare, je crois, en prison que, mais ça c'est son avocat, on n'en a pas parlé, mais qui a joué un rôle important, qui le lui aurait dit, dites-vous, c'est qu'elle déclare que son accusation, quand elle accusait son père d'inceste, elle avait menti. Hein. C'est elle-même qui l'avait écrit, je crois, pendant qu'elle était en prison. Alors elle sort, sa peine est réduite par Pétain, elle sort de prison en 1945 pour épouser, ça ne s'invente pas, le fils du greffier de sa prison. Alors là, la prisonnière modèle qu'elle était en prison, prison, devient une mère de famille, une épouse modèle, une fille modèle. Parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à dès sa sortie de prison, jusqu'à sa mort en 1966, elle a vécu avec qui ? Chez elle, avec son mari, ses enfants et sa mère qu'elle avait voulu empoisonner. C'est quand même incroyable, ça, cette fin.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, elle et Germaine Nozière, donc Violette et Germaine, se sont complètement réconciliées. Elles n'ont quasiment pas, à mon avis, évoqué le passé. Et en fait, la décision a été prise immédiatement qu'elles vivent l'une avec l'autre et qu'elles soient enfin réunies. Et je pense qu'elles se sont découvertes mère et fille à ce moment-là, réellement.
Et alors donc, elle est réhabilitée en 1963. Ça, c'est assez rare quand même dans les annales judiciaires, Véronique
Chalmette. Je crois que c'est même le seul exemple.
Parce qu'elle elle a reconnu son crime. Elle est criminelle. Oui. Donc, elle est réhabilitée.
Oui, c'est le seul exemple pour un crime de droit commun. Son avocat a beaucoup travaillé à ça. Il y avait eu des articles 10 ans auparavant, par exemple, de Libération. Enfin bon, les gens continuaient à s'insurger du fait qu'on veuille la réhabiliter. Mais il s'avère que son dossier, quand même, à la révision, a prêché pour sa réhabilitation. Et la cour de Rouen l'a réhabilité donc.
Et elle meurt 3 ans plus tard, en 1966, en demandant à ses proches de détruire, dites-vous, une valise verte dans laquelle il y avait des documents qu'elle n'a jamais voulu révéler, en tout cas en emportant son secret avec elle.
Voilà. Donc en fait, ce seraient des papiers qui auraient été récupérés par sa mère sur le lieu du crime, parce que les scellés n'avaient pas été posés. Enfin, il y a eu tout un tas de choses, d'anomalies pendant l'enquête affolante. Et donc sa mère aurait récupéré des papiers qui auraient été mis dans une valise en carton verte qui aurait été cachée par Violette dans la maison où elle habitait en Normandie jusqu'à sa mort. Et elle a demandé donc à ses enfants de brûler ses papiers sans les regarder.
C'est en tout cas ce qu'on voit à la fin de votre livre. Donc, je recommande la lecture, Véronique Chalmette, parce qu'il est vraiment passionnant, impressionnant aussi. Merci. Violette Nozière, la fille au poison, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film Violette Nozière de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, disponible en DVD chez Universal, ainsi qu'une archive pâtée de 1933. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Olivier Daligo, documentation Claire Destacan, Claire Tessère et Violaine Ballet, une réalisation de Anne Kobilac.